On s'intéresse à présent à un phénomène qui se déroulerait en moyenne 250 000 fois dans le cours d'une vie humaine, 250 000 fois. Un phénomène récurrent, un phénomène que parfois on dit même contagieux, et qui d'ailleurs se déroule même pour les femmes enceintes, chez les bébés. On estime que ce phénomène a lieu entre 11 à 12 semaines de grossesse et même entre 22 et 26 semaines. Ce phénomène aurait lieu à un rythme particulièrement important de 50 à 60 fois par jour. On s'intéresse à présent au bâillement. Oui, ça nous concerne tous. C'est un phénomène assez répandu. Ce serait même universel, un comportement universel, le bâillement présent chez la plupart des vertébrés. Mais pourquoi bâille-t-on exactement? Quels sont les liens entre le bâillement, la fatigue, la somnolence? Il y a de nombreuses hypothèses qui ont été émises sur l'origine du bâillement, des hypothèses parfois formulées dès l'Antiquité, notamment par Hippocrate. Alors on explore ensemble aujourd'hui l'importance physiologique du bâillement. On en discute avec le docteur Olivier Faluzenski. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, qui est tout d'abord concerné par le bâillement? Est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne face à ce phénomène?
Écoutez, nous ne sommes qu'un animal dans toute l'échelle et nous faisons partie des vertébrés. Or, tous les vertébrés, qu'ils soient sous l'eau, les poissons, dans l'air, les oiseaux et tout ce qui vit sur Terre, vertébrés, bâillent. Il existe trois types de bâillements. Les bâillements communs à tous ces vertébrés qui sont associés au rythme veille-sommeil et à la faim et à la satiété, qu'on retrouve depuis les reptiles, les tortues, tout ce que vous voulez, jusqu'aux primates et à l'homme. Et puis il y a des bâillements qui sont associés aux émotions, qu'on retrouve surtout chez les mammifères et peut-être chez quelques oiseaux. Et enfin, le bâillement qu'on appelle très, très vilainement contagieux, puisqu'il ne se transmet pas de microbes ni quoi que ce soit, c'est en fait une imitation comportementale qu'on retrouve avec certitude chez les grands singes, chez l'homme, probablement chez l'éléphant, chez le perroquet et peut-être d'autres espèces sans qu'il y ait des preuves scientifiquement établies aujourd'hui.
Oui, alors on va parler avec vous, docteur Valdinski, de ces différents types de bâillements. Quelle est l'importance tout d'abord physiologique du bâillement? Pourquoi bâille-t-on?
Ben ça, c'est la question la plus difficile, puisque actuellement il n'y a pas de consensus sur la finalité du bâillement. Alors, Hippocrate, dont vous parliez tout à l'heure, il voyait ça comme une cheminée par où s'évacuaient des humeurs. On n'en est plus là. Actuellement, les théories sont d'une part celle que je soutiens, qui est une stimulation de la vigilance, et puis il y a des Américains emmenés par Andrew Gallop qui ont développé une théorie d'un refroidissement du cerveau. Mais il y a beaucoup d'impossibilité, à mon point de vue, d'un point de vue physiologique, pour accepter cette théorie, étant donné que notre cerveau fonctionne à température constante, qu'on soit en activité, qu'on dorme ou qu'on pense à rien, entre guillemets. Et en plus, les reptiles qui sont poéquilothermes, c'est-à-dire qui ne régulent pas leur température, bâillent aussi au moment où ils retrouvent leur activité motrice, quand leur température remonte. Et on ne voit pas pourquoi ils auraient besoin de faire baisser leur température, alors qu'au contraire, ils ont besoin que le soleil les réchauffe pour pouvoir bouger.
Alors, on le voit avec vous, docteur Valudinski, il y a plusieurs hypothèses quant à la signification du bâillement. Vous le dites, selon vous, c'est notamment pour maintenir la vigilance, donc pour éviter la somnolence. Parfois, certains, notamment, vous l'avez dit, une équipe de chercheurs américains pense que le bâillement pourrait aider à refroidir le cerveau. Il y a également d'autres hypothèses qui ont été formulées. Certains considèrent que le bâillement pourrait améliorer l'oxygénation du cerveau.
Oui, ça c'est une erreur, ça a été démontré. C'est une vieille théorie inventée par De Gorter, qui était un médecin hollandais au XVIIIe siècle. Et en fait, Robert Provine, qui donc est américain, a montré que les gaz du sang ne variaient pas, les gaz inspirés, expirés ne varient pas. Et moi, je fais des enregistrements en continu et on voit une petite baisse de la pression partielle en oxygène tout de suite après le bâillement. D'autre part, quand vous êtes à l'acmé du bâillement, vous avez une apnée de quelques secondes, ce qui n'est pas le meilleur moyen d'oxygéner le cerveau. Et si vous pensez, par exemple, à quelqu'un comme un marathonien qui a besoin de beaucoup d'oxygène, vous ne le voyez pas bâiller pour oxygéner son corps. et son cerveau en particulier. Quand vous êtes concentré sur une tâche intellectuelle qui consomme beaucoup d'énergie pour votre cerveau, vous ne bâillez pas. Vous bâillez justement quand vous êtes dans l'ennui, dans les transports en commun, quand vous écoutez un conférencier qui est lassant par son discours monotone, et le bâillement est là pour vous restimuler, vous éviter de vous endormir.
Bon, alors on va essayer de ne pas faire bâiller nos auditeurs avec vous, docteur.
Ça, c'est sûr qu'ils vont bâiller, hein. c'est induit par le fait d'y penser.
Mais justement, on pourrait parler de la contagion de ce bâillement. Comment se fait-il que parfois, en présence de quelqu'un qui bâille, on se mette soi-même à bâiller? Là, ce n'est pas un signe d'ennui?
Non. C'est, en fait, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos comportements qui sont répliqués. Le rire, et par exemple, la sensation, si vous voyez quelqu'un se gratter, ça peut vous donner envie de vous gratter. Quand vous êtes dans une salle de spectacle et écoutez un comique, vous riez beaucoup plus que si vous êtes tout seul devant votre télévision. Donc il y a de multiples choses qui sont répliquées comme ça. Et d'autre part, nous avons tendance à prendre les positions corporelles des personnes qui sont en face de nous. En fait, c'est une synchronisation de nos états. Et c'est en même temps une manière de comprendre la personne. On retombe sur les notions de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et dans la transmission du bâillement, ce n'est pas les neurones de la motricité, c'est dans les systèmes émotionnels.
C'est de l'empathie, c'est ça? C'est une forme d'empathie?
Exactement. C'est d'ailleurs très curieusement les études qui ont été faites par des publicitaires dans les années 70 qui ont montré que les gens qui étaient le plus sensibles à la réplication du bâillement étaient celles qui étaient le plus sensibles à la publicité. Et environ 70% de la population est sensible à la réplication du bâillement et 30% très peu ou pas du tout. Et dans cette catégorie, on voit des personnes atteintes de maladies comme la schizophrénie ou l'autisme et des troubles de la personnalité comme ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire l'incapacité de lire les émotions des autres. Et donc, c'est des traits de caractère, de personnalité. Mais donc, quand vous êtes très sensible aux émotions des autres, c'est-à-dire que vous êtes capable de décoder ce qu'ils expriment par un langage non verbal, qui est un langage corporel, vous êtes sensible à ce qu'ils expriment en bâillant.
Comment comprendre, docteur Waldensky, que comme vous l'avez dit, le bâillement concerne tous les vertébrés, ou en tout cas la très grande majorité des vertébrés?
Je pense que ça concerne tous les vertébrés, puisqu'il y a eu une polémique sur la girafe, mais la girafe bâille aussi. Hein. Moi, personnellement, je pense que c'est un comportement phylogénétiquement très ancien, c'est-à-dire qu'il existe chez les cerveaux les plus rudimentaires, comme les reptiles, et il s'est maintenu au cours de l'évolution sans changement. Ce qui est très curieux d'ailleurs, hein, c'est simplement la fréquence qui peut varier d'une espèce à l'autre et des adaptations, mais le déroulement du bâillement est similaire par toutes les espèces. Et le revers de ça, c'est qu'il est très précoce en point de vue ontogénèse, vous l'avez dit, c'est vers 12 semaines de grossesse qu'il apparaît. Et il est probable qu'il a un rôle, il apparaît quand le tronc cérébral est myélinisé après la moelle, mais que le cortex n'est pas encore myélinisé. Et que le fait de ces grandes contractions musculaires et tous les systèmes neuronaux qui sont en jeu ont une influence dans la maturation du système nerveux chez le fœtus. Et c'est effectivement entre 23 et 33 semaines que nous bâillons le plus dans notre vie. Et les jeunes mamans qui nous écoutent auront sûrement remarqué que leur bébé bâille beaucoup avec des étirements, ce qui s'appelle une pendiculation, c'est un joli mot. Et à mesure que l'enfant grandit, il va retrouver le rythme des adultes, c'est-à-dire 4, 5 jusqu'à 10 bâillements par jour suivant l'état de fatigue, alors que ça peut être 20, 30, 40 chez un nouveau-né.
Ouais. Docteur Waldensky, quelles sont les vertus du bâillement?
Les vertus, il n'a pas de vice en tout cas, je ne peux pas répondre comme ça.
Mais est-ce que ça permet une détente? Est-ce que musculairement ça produit une forme de bien-être?
C'est tout un ensemble, c'est-à-dire que le bâillement dépend d'une structure cérébrale qu'on a à la base du cerveau, qui dans l'hypothalamus, hein, qui est l'ordinateur des régulations de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire les équilibres de nos fonctions, comme le sucre, le sel, la température corporelle, etc. Il y a un noyau dans l'hypothalamus qui est l'inducteur des bâillements. Le fait de bâiller, c'est une puissante contraction musculaire qui entraîne une contraction du diaphragme, d'où l'inspiration, avec un mouvement qu'on retrouve chez tous les animaux de flexion de la nuque, puis d'extension. Et ma théorie personnelle, c'est que cette puissante contraction influence la circulation du liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire le liquide qui entoure le système nerveux entre l'os et le système nerveux proprement dit à l'intérieur des méninges. Dans ce liquide s'accumule un certain nombre de molécules pendant qu'on est éveillé, et que pendant qu'on dort, la concentration de ces molécules diminue. À l'acmé du bâillement, le bâillement lui-même bloque la circulation du liquide céphalo-rachidien, et tout de suite après, il y a une accélération de cette circulation. Et donc ma théorie, c'est que ça augmente ce qu'on appelle la clearance, c'est-à-dire l'élimination par minute des molécules somnogènes qu'on a dans notre système nerveux, et c'est comme ça que ça restimule la vigilance.
Donc finalement, on voit les avantages du bâillement, et d'ailleurs, il y a certains groupes de yoga qui favorisent le bâillement, où on se force à bâiller.
Le système émotionnel, on voit des sportifs qui bâillent avant de se mettre dans les starting blocks. Il y avait eu un coureur américain lors des derniers Jeux olympiques d'hiver qui faisait du patinage de vitesse, qui a beaucoup intrigué les journalistes américains parce qu'il bâillait beaucoup avant de courir, avant de s'élancer. On voit ça chez les gens de spectacle avant d'entrer en scène, chez les chanteurs. Il y a aussi le fait que ça abaisse le larynx, que le bâillement, c'est ce qui dilate le plus le pharynx et le larynx, ça multiplie par 4 le diamètre, et ça relâche les cordes vocales pour éviter d'avoir un surmenage des cordes vocales. C'est très important de bien bâiller. Mais ça a un effet de détente, et on retrouve ça, par exemple, si vous regardez les animaux dans une salle d'attente de vétérinaire, vous verrez les chiens bâiller de façon répétitive parce qu'ils sont anxieux, tendus. Et le bâillement appartient aux fonctions du système qu'on appelle le parasympathique. Quand on a un stress, on stimule l'adrénaline, le système sympathique, et on a donc l'homéostasie, l'effet en retour du parasympathique avec des bâillements pour retrouver le calme et la sérénité après un stress. Et donc, même si on n'est pas stressé, le fait de bâiller amène un soulagement, un bien-être. Et d'ailleurs, un bon bâillement naturel et spontané entraîne une sensation agréable. Ça ne dure pas longtemps, mais il y a un mini-orgasme de plaisir quand on a bien baillé, on se sent mieux.
On ne devrait pas se culpabiliser alors de bâiller, docteur Valudinsky, parce que dans la plupart des cultures, docteur Valudinsky, on a tendance à cacher nos bâillements. On sait qu'on met la main devant la bouche et c'est presque grossier de bâiller en public.
Ça dépend des cultures, la main devant la bouche n'a pas la même signification si vous êtes en Inde ou dans un pays arabe. Dans un cas, c'est la peur que votre âme s'en aille, et de l'autre côté, c'est que le démon pénètre. Donc il y a des significations qui sont purement culturelles. Mais le fait de mettre la main devant la bouche, c'est un phénomène culturel, c'est pas spontané. Les bébés ne mettent pas leur main devant la bouche quand ils bâillent.
Effectivement. Alors peut-être que on sera moins culpabilisé désormais de bâiller. On voit que ça a des bienfaits, ce bâillement. On essaie d'en comprendre avec vous les causes ce matin. L'origine, on voit que dès l'Antiquité, Hippocrate déjà réfléchissait sur les raisons pour lesquelles on bâille. En tout cas, tout le monde semble concerné. Tous les vertébrés sont concernés par le bâillement. Et l'être humain, en moyenne, bâille 250 000 fois au cours de sa vie. Alors, bâillons allègrement. Olivier Valentinski, je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes intéressé à ce phénomène du bâillement. On mettra d'ailleurs sur notre page internet, la page internet des Samedis du Monde, des liens vers un site que vous avez créé et qui se consacre à des études relatives au bâillement. On apprend énormément de choses à cette lecture, docteur Valudinsky. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin sur les raisons du bâillement.
Merci à vous. Au revoir.
À bientôt.